Vous écoutez On lit pour vous.
Un jour, j'ai compris que j'avais toujours été plusieurs. Un texte de Mathilde Warright, paru le 23 septembre 2025 dans la presse. Mathilde Warright est membre du Brave Movement, survivante d'inceste et d'agressions sexuelles dans son enfance. Les victimes d'inceste et de violences sexuelles développent des stratégies de survie, comme la dissociation aux lourdes conséquences, explique Mathilde Warright. J'ai mis plus de 30 ans à comprendre ce que je vivais. Des trous de mémoire, des comportements que je ne comprenais pas, des émotions qui surgissaient sans raison. Et puis un jour, une partie de moi a parlé en thérapie. J'ai compris que j'avais toujours été plusieurs et que c'était cela qui m'avait permis de survivre à l'inceste, à la négligence, à l'absence de sécurité affective. Il a fallu des années de travail thérapeutique pour intégrer toutes ces parties. Pour devenir une seule identité fonctionnelle, unifiée, vivante. Comme je l'ai vécu, la plupart des victimes doivent survivre seules aux violences sexuelles et à leurs conséquences psychotraumatiques. Quand on est aux prises avec la mémoire traumatique, on vit, on revit les violences, à l'identique, comme au présent, comme une torture sans fin. Il y a de lourdes conséquences, de multiples pathologies au quotidien, des dépendances, le stress post-traumatique, les troubles dissociatifs, dont le trouble dissociatif de l'identité, TDI, les troubles alimentaires, les dépressions sévères, les pensées mélancoliques et tentatives de suicide, le suicide. Il y a aussi le risque de maltraitance institutionnelle et de nouvelles violences sexuelles. C'est d'autant plus terrible qu'il existe des soins adaptés et efficaces. Des soins qui permettent de traiter la mémoire traumatique et d'arrêter une grande partie des conséquences. Au-delà des clichés sensationnalistes. Aujourd'hui, je parle parce que trop de personnes concernées sont invisibilisées, ne reçoivent pas le bon diagnostic ou sont traitées de menteuses. Parce que le cinéma et les médias ont trop souvent réduit le TDI à des clichés sensationnalistes. Parce qu'il est temps d'écouter autrement et de briser le silence tenace qui entoure les violences intrafamiliales et l'inceste. Ce silence ne protège personne. Des enfants qui grandissent en morceaux parce que c'était la seule façon de survivre. Des adultes qui mettent des décennies à comprendre qu'ils n'étaient pas fous, juste dissociés. Le TDI est encore trop méconnu, trop mal compris, trop souvent caricaturé. Et pourtant, il est là, au cœur d'une réalité qu'on préfère ignorer, l'inceste. L'inceste ne se produit pas dans des ruelles sombres. Il se produit dans les chambres d'enfants, dans les maisons bien rangées, là où l'on devrait être en sécurité. En France, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants estime que 3 enfants par classe en sont victimes. Au Canada, environ 1/3 des femmes et près de 10 % des hommes ont subi des violences sexuelles avant l'âge de 15 ans, souvent dans un cadre familial. Ces chiffres ne sont pas des statistiques abstraites, ils sont des vies, des corps, des silences. À chaque rentrée scolaire, on parle de cahiers neufs, de routines à reprendre. Mais dans chaque classe, il y a des enfants qui vivent dans un huis clos de violence. Et l'école est parfois le seul endroit où une parole pourrait émerger, si tant est qu'on sache l'écouter. Si tant est qu'on sache reconnaître les signaux faibles. Si tant est qu'on mette en place des espaces où les enfants peuvent comprendre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Quand les violences sont précoces, répétées et qu'aucun adulte ne protège, le cerveau fait ce qu'il peut. Il dissocie, il sépare la douleur du reste. Et parfois, cette dissociation devient structurelle. Plusieurs identités se forment, chacune portant une part du traumatisme. L'une va à l'école, l'autre garde la colère. Une autre encore protège l'enfant intérieur. Ce n'est pas une pathologie spectaculaire, c'est une stratégie de survie. Le TDI est reconnu par le DSM-5, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et la CIM-11, la classification internationale des maladies. Sa prévalence est estimée à environ 1 % dans la population générale et jusqu'à 4 % chez les patients psychiatriques hospitalisés. Au Québec, on manque de données précises, mais si l'on s'en tient à ces estimations, des centaines de milliers de personnes ici et maintenant vivent avec ce trouble sans le savoir, sans être entendues. Sans être cru. On parle possiblement de près de 260 000 personnes au Québec. des chiffres qui devraient suffire à nous faire tendre l'oreille. Le sous-diagnostic du TDI représente un enjeu majeur de santé publique dont il faut s'emparer. Reconnaître le TDI, c'est reconnaître la force de celles et ceux qui ont survécu. C'est aussi choisir de mieux protéger les enfants d'aujourd'hui pour qu'ils n'aient pas à se reconstruire en silence demain. À l'heure où les cartables se remplissent et où les classes se peuplent, il est temps de regarder autrement les enfants qui nous entourent, de comprendre que certains portent en eux des mondes éclatés et que notre devoir, collectif, professionnel, culturel, est de les entendre. Enfin, c'était « Un jour, j'ai compris que j'avais toujours été plusieurs », un texte de Mathilde Warright, paru le 23 septembre 2025 dans la presse.
L'épouvantail de l'islam radical, un texte d'Isabelle Haché, paru le 2 mai 2025 dans la presse. L'interdiction totale des cellulaires à l'école, ça allait de soi. À peu près tout le monde a applaudi l'annonce du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, avec raison. Enfin, on se décide à faire éclater la bulle dans laquelle ces appareils isolent nos enfants. Cela dit, une autre interdiction totale à l'école annoncée par le ministre fait pas mal moins consensus. Celle du port de signes religieux par l'ensemble du personnel scolaire. Trois anciennes députées, issues de trois partis différents, ont uni leur voix pour dénoncer la volonté du ministre d'élargir la portée de la loi sur la laïcité de l'État qui interdit le port de signes religieux aux enseignants. Si le projet de loi 94 est adopté, l'interdiction s'appliquera à toutes les personnes qui donnent des services aux élèves, des orthophonistes aux cuisinières, en passant par les éducatrices en service de garde. Françoise David, Québec solidaire, Louise Arel, Parti québécois, et Christine Saint-Pierre, Parti libéral, voient dans ce projet de loi une surenchère qui discrimine les femmes. Elles estiment que le gouvernement profite d'un scandale réel, celui de l'école Bedford, pour ramener des débats dont nous nous serions bien passés. Des débats douloureux qui nous divisent et nous déchirent depuis la crise des accommodements raisonnables, il y a près de 20 ans. Et c'est reparti pour un tour. Le Québec a-t-il vraiment besoin de s'engueuler une fois de plus à propos du hijab? Il y avait un vrai problème à Bedford, mais le voile n'était pas en cause. Dans cette école de Côte-des-Neiges, les profs qui refusaient d'enseigner certaines matières et de reconnaître les besoins des élèves en difficulté étaient des hommes. Dans les 17 écoles inspectées par la suite, aucun problème de prosélytisme lié au port d'un signe religieux n'a été porté à la connaissance du ministre, rappellent les trois ex-députés. Pas un seul. Pas grave, on donne un nouveau tour de vis à trancher Bernard Drinville. On repart la chicane. Obliger une femme à retirer son voile pour brasser les sauces à la cafétéria de l'école. Personne ne me fera croire qu'il faut légiférer pour ça, qu'il en va du bien de nos enfants. Ce projet de loi ne fait qu'annoncer un retour à des débats houleux pour des raisons idéologiques et sans motif sérieux, comme le soulignent avec justesse les trois anciennes députées. Il faut s'attendre à ce que le discours autour du voile se durcisse à nouveau. Déjà, certains commentateurs le présentent comme un drapeau que l'islam radical utilise pour marquer ses avancées territoriales. Rien de moins. Ah, mais il ne faudrait surtout pas remettre en cause ce discours sans nuance. Il ne faudrait pas critiquer le projet de loi du ministre de l'Éducation au risque de se faire traiter comme les trois ex-élus, de pauvres naïfs trop occupés par leur croisade pour écouter celles qui nous mettent en garde contre l'islamisation rampante du Québec et qui savent, elles, de quoi elles parlent. C'est une constante dans ce débat. On affirme parler au nom des musulmanes, voilées ou non, sans trop se soucier de savoir de quoi on parle au juste. Les faits, bof. Seules les convictions idéologiques comptent. Et elles sont inébranlables. J'en ai discuté avec le sociologue français Daniel Verba, chercheur émérite à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux et spécialiste de la laïcité à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Daniel Verba s'intéresse depuis des années au port du voile en France. Il a mené une multitude d'entrevues auprès de Françaises voilées pour comprendre leurs motivations. Il a publié des études savantes à ce sujet. Bref, en voilà un qui sait de quoi il parle. Loin de moi l'idée de défendre le voile, précise-t-il d'emblée. Je ne suis pas un promoteur du voile islamique. Le professeur ne parle pas au nom des musulmanes voilées. Seulement, il rapporte leurs paroles. À l'idéologie, il répond par l'exploration empirique. Parmi toutes les femmes françaises que j'ai interviewées, dit-il, aucune ne m'a dit porter le voile parce que quelqu'un ou un groupe l'obligeait à le faire. Quand les femmes expriment leur liberté de porter le voile, elles le font en toute autonomie. Évidemment, Daniel Verba n'exclut pas d'avoir pu passer à côté de femmes soumises à une domination phallocratique qui les obligeait à porter un couvre-chef dans l'espace public. Par définition, ces femmes sont plus difficiles d'accès. Mais en France, elles sont certainement très minoritaires, estime le sociologue. Ces enquêtes, comme celles de ses collègues, montrent que la vaste majorité des musulmanes françaises qui portent le foulard islamique le font en toute indépendance. Pour des motifs religieux, bien sûr, mais aussi comme un moyen pour les adolescentes de se distinguer, voire de se rebeller contre leurs parents athées. Daniel Verba a aussi noté une espèce de sororité dans le port du hijab. C'est souvent de femme à femme qu'on se décide à porter le voile ou à le garder. On est loin du symbole de la femme soumise, encore plus loin de l'étendard censé marquer les avancées territoriales de l'islam radical. Daniel Verba voit, dans cette façon pour le moins caricaturale de présenter les choses, une construction sociale, politique, idéologique, portée par des courants réactionnaires. On tente de faire croire à un continuum. D'abord, le port du voile, ensuite, le repli identitaire, puis le rejet des valeurs de la société d'accueil et pour finir, la radicalisation violente. Or, cette mécanique-là n'existe pas, tranche-t-il. Ces corrélations me semblent tout à fait illégitimes. Vous me direz que le voile n'est pas un bout de tissu comme les autres, que des Iraniennes meurent pour avoir osé marcher dans la rue cheveux au vent. C'est vrai, mais on ne peut faire fi du contexte. En Iran, un régime théocratique impose aux femmes des rituels que la plupart d'entre elles n'ont pas choisis. En France, comme au Québec, certaines femmes choisissent de porter le hijab parce qu'elles vivent dans une démocratie qui respecte la liberté de conviction religieuse. On change de contexte politique et le voile change de sens, souligne Daniel Verba. En Iran, s'en défaire est un signe d'émancipation. En France, le porter est un signe de liberté. Au Québec, comme en France, des musulmanes exercent leur liberté de porter le voile pour toutes sortes de raisons, et jusqu'à preuve du contraire, endoctriner les enfants n'en fait pas partie. C'est ça la réalité du terrain, quoi qu'en disent ceux qui agitent l'épouvantail de l'islam radical en faisant mine de savoir de quoi ils parlent. C'était « L'épouvantail de l'islam radical », un texte d'Isabelle Haché, paru le 2 mai 2025 dans La Presse.
L'Institut TA lance une web-série pour sensibiliser aux troubles d'apprentissage, un texte de la rédaction paru le 1er octobre 2025 dans Info Lanaudière. L'Institut des troubles d'apprentissage, Institut TA, marque aujourd'hui le début du mois de la sensibilisation aux troubles d'apprentissage avec le lancement de sa web-série « Au-delà de la moyenne ». Cette création poignante, disponible dès maintenant, propose un regard nouveau sur la réussite scolaire et invite la société québécoise à soutenir les jeunes qui apprennent autrement. Une web-série qui renverse la norme. Composée de 7 épisodes, totalisant environ 20 minutes d'écoute, la web-série produite par l'Institut TA pose une question fondamentale. Et si la véritable réussite scolaire n'était pas de suivre une ligne bien tracée, mais plutôt de tracer la sienne à son rythme? Sensible et percutante, au-delà de la moyenne, met en lumière l'unicité de chaque élève et bouscule nos attentes face à l'école. Elle remet en question nos attentes face à l'école en rappelant qu'apprendre, ce n'est plus une seule façon de faire. C'est une multitude de chemins qui permettent à chacun de révéler son plein potentiel. Quand on mise sur les forces de chaque élève et qu'on accepte qu'il avance à son rythme, on permet à des talents extraordinaires d'émerger. C'est merveilleux de voir un jeune briller quand il se sent soutenu et reconnu dans sa façon unique d'apprendre, explique Caroline Léveillé, enseignante impliquée dans la web-série. Un mouvement collectif pour changer le regard sur les troubles d'apprentissage. Au Québec, près de 1 élève sur 4 vit avec un défi d'adaptation ou d'apprentissage. Cette statistique représente des milliers de jeunes Québécois qui méritent qu'on valorise leur unicité au-delà de leurs résultats scolaires. Nous voulons briser le réflexe de réduire la réussite scolaire à une moyenne ou une note. Derrière chaque chiffre, il y a un jeune qui mérite qu'on reconnaisse son potentiel et qu'on l'accompagne à tracer son propre chemin. La grande lecture partagée et la web-série ont le pouvoir de transformer nos perceptions des troubles d'apprentissage et de mobiliser la société pour la réussite de tous les élèves, souligne Marie-Philippe Goyer, orthopédagogue et directrice des contenus à l'Institut des troubles d'apprentissage. La grande lecture partagée, défi collectif de 1 million de minutes de lecture. En complément à la web-série, l'Institut TA invite la population québécoise à participer à la première grande lecture partagée le 23 octobre pour soutenir les jeunes qui vivent avec des défis d'apprentissage. L'auteur et comédien Simon Boulris s'est naturellement associé à cette initiative rassembleuse. Ayant moi-même découvert la joie de lire sur le tard grâce à une enseignante, je sais à quel point le rôle de passeur culturel est fondamental. La lecture, c'est bien plus que de déchiffrer des mots, c'est l'excitation de partager un moment, d'échanger sur une histoire, de discuter de ce qu'on a ressenti. Et surtout, la conviction qu'on n'est jamais totalement seul, soutient Simon Boulris, porte-parole de la grande lecture partagée. Le fonctionnement est simple. L'inscription se fait en ligne, que ce soit individuellement ou en groupe, classe, famille, amis, et chaque participant choisit une durée de lecture, 15, 30, 45 ou 60 minutes. Ensuite, le 23 octobre, tout le monde lit selon ses envies, BD, romans, livres audio, albums jeunesse, tandis qu'un compteur numérique suit la progression en temps réel vers l'objectif collectif de 1 million de minutes. Pour découvrir la grande lecture, partagée, instituta.com/grande-lecture-partagée. Pour visionner la web-série au-delà de la moyenne, instituta.com/web-série-o-de-la-de-la-moyenne. À propos de l'Institut des troubles d'apprentissage. L'Institut des troubles d'apprentissage met son expertise au profit de l'inclusion, de la persévérance et de la réussite des jeunes présentant des défis liés à l'apprentissage. La réalisation de sa mission repose sur l'accès à un vaste réseau d'experts et de chercheurs, ainsi qu'une collaboration soutenue avec les intervenants du milieu qui assistent au quotidien ces jeunes de 0 à 25 ans. L'Institut TEA propose aux enseignants et aux parents des outils et programmes innovants et adaptés aux différents types d'apprenants qui permettent de sensibiliser, éduquer, soutenir et former. C'était l'Institut TEA lance une web-série pour sensibiliser aux troubles d'apprentissage, un texte de la rédaction paru le 1er octobre 2025 dans Info Lanaudière.
Un texte de Céline Lamy paru le 15 octobre 2025 dans Le Devoir. Ils sont légions, celles et ceux qui arrivent dans mon bureau à bout de souffle, à bout d'eux-mêmes, au bout de leur vie. Envoyés pour une évaluation pour l'autisme, le trouble du spectre de l'autisme, TSA pour être plus précise. Ils sont adultes, ont tenté de fonctionner, de camoufler leur atypie toute leur vie, parce que, très tôt, ils ont compris qu'elle n'était pas recevable, pas reçue, pas voulue, jugée et moquée. Que leur façon d'être au monde, de le voir, n'était pas normale. Alors, ils ont cessé d'être authentiques pour se conformer à ce qu'on attendait d'eux, pour ne pas déranger. Au point que personne ne puisse souvent même imaginer qu'ils sont autistes. Des années, des décennies même, ils ont tenu cette ligne. Quand ils arrivent à mon bureau, à 30, 40, voire 50 ans, ils ont traîné et multiplié toute leur vie des traumatismes relationnels liés à leur vulnérabilité, à leur naïveté parfois. Ils ont traîné de bureau médical en bureau médical, parfois en unité psychiatrique, avec des étiquettes multiples, des médications associées, sans que jamais on mentionne le TSA. Ils me racontent tous la même chose, les violences institutionnelles, l'angoisse de ne pas être cru, entendu, l'espoir à chaque nouvel intervenant qu'enfin il serait aidé. Mais quand cela déborde, que les injustices s'accumulent et que leurs droits ne sont pas respectés, avoir un toit décent, être capable de manger, d'être en sécurité, d'être protégé, qu'ils deviennent soudain trop directs, à bout de camoufler, on leur renvoie un « tu ne vas pas bien », alors qu'on devrait leur dire « tu as raison, ce que tu vis est inacceptable ». Prenez Yvette, le prénom fictif pour protéger son identité. Elle a eu un parcours en protection de la jeunesse très tôt, ballottée de droite à gauche, étiquetée personnalité limite. Mon évaluation formelle, établie sur des heures de rencontre, conclut qu'elle a un TSA et un syndrome de stress post-traumatique lié à toutes les incohérences et les violences institutionnelles qu'elle a vécues. Citation. On nous blâme pour des problèmes et on nous dit malade pour des réactions liées au système qui nous torture. Fin de citation. Ce sont ces mots qu'elle m'autorise à nommer pour elle tant elle n'en peut plus de les subir. Elle ne veut plus être autre chose que ce qu'elle est. Elle ne veut plus camoufler son atypie car cela l'épuise. Mais on lui parle d'internement quand elle réclame de vivre dans un logement salubre et tente de résister, sans aide, à un propriétaire qui, dit-elle, use de harcèlement et de menaces pour lui faire quitter son logement. Parfois, on lui donne des conseils pour vivre le moment présent. Quand elle répond que chaque moment présent lui arrive en pleine gueule, pourquoi persister à se maintenir là-dedans? Jusqu'à quel point tenir et à quoi bon? Profiter de la vulnérabilité de l'autre, le pousser dans ses retranchements et entraîner des réactions qui sont jugées psychiatriques, voilà ce que ce système, dans toute sa réalité et sa froideur, finit parfois par accomplir. L'empathie n'est qu'un concept dans les institutions dans lesquelles chacun fait sa job, essaye de tenir et de ne plus voir pour se préserver. Devenir sourd et aveugle à l'autre, c'est une modalité de survie qui semble se répandre comme une traînée de poudre. On pourrait et on devrait prendre notre téléphone et faire du lien, convoquer les différents partenaires, avoir une vision globale plurisystémique, faire en sorte que le patient se sente soutenu par une équipe. Mais cela arrive si rarement. J'en suis rendue ce matin à demander à être convoquée par un juge en droit du logement pour venir expliquer la réalité de ma patiente, ce qu'être autiste veut dire, alors qu'on lui renvoie l'idée qu'elle n'a pas l'air si autiste et qu'elle est fonctionnelle. Je vous parle d'Yvette, mais je pourrais aussi bien vous parler de David, d'Hicham, de Sandra, aussi des noms fictifs, qui ne bénéficient d'aucune aide cohérente ou concertée eux non plus. Parfois, des intervenants agissent ponctuellement, mais sans connaître leur dossier. Ils gèrent alors un petit morceau de vie, de temps en temps. Ces personnes sont des dossiers, des numéros dans un système tentaculaire, pantagruélique même, car il les dévore. Il les engloutit littéralement. Ils sont vulnérables du fait de leur autisme, mais ne sont pas malades. L'autisme n'est pas une maladie, qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Ils subissent les incohérences administratives, doivent justifier leur état, expliquer leur diagnostic, le prouver, convaincre. Alors oui, parfois, ils s'insurgent encore un peu, résistent, décompensent selon le terme psychiatrique consacré. Mais après autant d'efforts vains à être vus et entendus, ils décident de se taire. Malheureusement, pour certains, définitivement. On s'insurgera quelques jours, on dira qu'il ou elle s'est enlevé la vie dans un euphémisme dégueulasse dont la société a le secret. Mais regardons les choses en face. On ne leur a laissé aucune chance de la vivre décemment, leur vie. C'est nous tous qui la leur avons enlevée, ultimement. C'était « Ils sont légion », un texte de Céline Lamy, paru le 15 octobre 2025 dans Le Devoir.